Allô, passez-moi Amber. Amber. Amber, la ville d'Amber. Vous êtes sourd ou quoi?
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Rebonjour pour cette émission en direct de devant la salle de la série pour cet événement Respire organisé par le service déchets de la communauté de communes d'Amber Livradois-Forez et la communauté de communes en général, non, j'ai l'impression. De retour donc, on n'a pas le temps de décrire tout ce qui se passe ici à Amber. Ça prendrait au moins une heure d'émission pour décrire toutes les activités qui sont en cours. Si vous l'avez raté ce matin, vous pourrez aussi réécouter l'émission autour de l'assainissement en podcast sur le site de Radio Super, Radio Super, SUPEYRES bien sûr, .org. Et vous êtes bien en direct, donc sur le 93.3 Radio Campus Clermont-Ferrand aussi. À la console, toujours Agathe, derrière les platines, Agathe masquée, et Gaston, derrière le micro. Et pour cet événement qui est organisé comme un espace pour s'informer, participer, réparer, découvrir et entendre autour de la thématique de la transition écologique et sensibiliser le public aux enjeux environnementaux et pour y entendre, quoi mieux que la radio. Radio Super a donc pris place au cœur de cet événement et un peu plus loin sur les ondes de Radio Campus Clermont-Ferrand. À l'occasion de cette deuxième table ronde, nous allons en découvrir un peu plus sur ce qu'il se trame dans les arrière-boutiques des cuisines collectives du Livradois-Forez et dans les bureaux de la Cocom. Cet après-midi, donc, pendant une heure, nous parlons donc alimentation avec des gros mots comme loi Egalim, PAT et projet d'alimentation en général. Et tout ça centré autour de ce beau projet à table. Mangeons bien, jetons moins. Alors je vais essayer de ne pas me tromper pendant l'émission. À un moment, je risque de dire mangeons mieux ou jetons plus. Je risque de me tromper. Et donc, c'est sur Radio Super et Radio Campus Clermont-Ferrand. Et aujourd'hui, une brochette d'invités impressionnante. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui vont parler au micro. Alors je vais essayer de faire le tour de toutes les personnes présentes. Qui sont là aujourd'hui. Donc il y a Marie Chizel, responsable biodéchets à la communauté de communes Amber-Livradois-Forez. Bonjour.
Bonjour.
Il y a Marie-Laure Labouré, responsable du service agriculture et forêt.
Bonjour à tous. Ah.
Bonjour Marie-Laure.
Bonjour à tous.
Voilà, qu'on entende les voix. Hélène Cadieu, de l'asso Bio 63, big up à Nathaniel Jacquard, prestataire sur l'accompagnement des cuisines. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Il y a Catherine Chassot, une cuisinière, voilà, qui est au fourneau à l'école de Marat. Bonjour Catherine.
Bonjour Gaston.
Il y a Sarah Boulet, élue de Condat-les-Montboissiers, derrière, là-haut, dans la montagne, en charge de la restauration sur la commune.
Oui, bonjour.
Et il y a Anaïg Pain sec, je ne sais même pas comment on le dit, de l'association sur les pâtes Gastard, prestataire sur le volet pédagogique.
Bonjour.
Et en invité surprise, nous avons le camion Ben, qui est le camion ordure d'Amber Livradois-Forez, du Spank, qui est en pleine démonstration. Ça donne très envie d'y aller et de voir ce qui s'y passe. Alors, revenons peut-être sur l'historique de ce projet, dont je vais essayer de ne pas écorcher le nom. Mangeons moins. Ouais, c'est exactement ce que j'ai écrit, je me suis trompé. Mangeons bien, jetons moins. C'est un projet porté par la communauté de communes ALF, ses techniciens, élus. Quelle est l'origine de ce programme? Peut-être Marie ou Anne-Laure?
Eh bien, c'est un projet, effectivement, que la communauté de communes a souhaité monter depuis 2 ans maintenant. Et l'objectif, eh bien, comme son nom l'indique, c'est effectivement de tendre vers une alimentation plus équilibrée, plus durable, et en parallèle de diminuer le gaspillage alimentaire.
Et alors, est-ce que dans quel contexte s'inscrit ce projet?
Ce contexte s'inscrit en fait par rapport déjà aux lois en fait qui imposent à la restauration collective de faire un diagnostic de lutte contre le gaspillage alimentaire et améliorer aussi son approvisionnement qui soit de qualité et bio. Historiquement, on accompagnait déjà les restaurations. La collectivité accompagnait déjà les restaurants collectifs, notamment écoles et centres hospitaliers, par exemple, ou maisons de retraite, pour tout ce qui est gestion des déchets. On les a accompagnés sur le compostage. Puis, avant de mettre le compostage, on accompagnait sur le gaspillage alimentaire. Donc, on a voulu élargir à tous les établissements, d'accompagner tous les établissements.
Voilà, c'était une première étape. Donc, parler de gaspillage, c'était un peu un prétexte pour aussi aller vers l'alimentation. Est-ce que c'est une première dans le département ou est-ce que c'est déjà en cours sur d'autres territoires?
Alors, ces sujets sont généralement assez abordés maintenant partout en France. Après, nous, on a souhaité prendre le parti un peu de mobiliser tous les acteurs autour de la restauration collective. Et donc, c'est pour ça que notre projet a plusieurs volets. Un volet pédagogique, un volet donc sensibilisation des convives, un volet plutôt production agricole, puisque l'idée aussi, c'est de pouvoir avoir des approvisionnements locaux et de qualité. Et puis, un volet, évidemment, cuisine, vraiment pratique culinaire, avec l'accompagnement notamment des cuisines, des cuisiniers et voilà, des cantiniers.
Ok, donc est-ce que... Et deux tout ça, c'est. Est-ce que il y a une spécificité locale dans tout ça, de la présence, de la proximité, peut-être des agriculteurs, des producteurs avec les écoles et peut-être.
C'est vrai qu'on est dans un territoire rural. L'agriculture, elle est aux portes des cantines finalement. Et donc voilà, effectivement, on se dit qu'on est une région vraiment appropriée pour mener à bien ce genre de projet. On a des productions diversifiées, on a voilà, pas mal sur le territoire d'offres agricoles qui, on pense, pourraient davantage approvisionner les cantines. Et on se rend compte que voilà, vraiment, on a un potentiel de chaque côté. On a des cuisiniers engagés qui travaillent bien, on a des agriculteurs avec des productions diversifiées. Et donc voilà, l'enjeu, c'est de un peu faire matcher les deux.
Et alors tout ça s'inscrit dans le PAT, je crois, si j'ai bien compris ce que vous m'aviez expliqué. N'hésitez pas à me rattraper parce que on a préparé cette émission ensemble, mais c'est un gros dossier et vous êtes toutes très bien renseignées sur le sujet, donc n'hésitez pas à me reprendre. Le PAT avec le Grand Clermont, qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, en fait, le PAT, c'est une dynamique depuis plusieurs années qui est à l'origine du parc Livradois-Forez et puis du Grand Clermont. Et c'est en fait l'occasion de faire dialoguer tous les acteurs de l'agriculture, de l'alimentation, voilà, à travers différents projets qui mobilisent vers le développement d'une alimentation plus saine et durable.
Ok, c'est plutôt bien parti, non ?
On y travaille.
Donc on est bien sur un projet d'alimentation, comme son nom l'indique, de prime abord assez ambitieux. Est-ce que on peut se redire les objectifs de ce projet ? Alors on a plusieurs objectifs qui se dégagent un peu.
Le premier objectif, c'est faire des économies en évitant du coup le gaspillage alimentaire, éviter de mettre les produits à la poubelle et de payer en plus l'évacuation, du coup l'élimination de ces déchets. Avec les économies qui seront réalisées, ça permet d'acheter local et des produits plus de qualité. Donc l'objectif, c'est de manger mieux, plus diversifié et mettre du bio aussi dans les cantines.
Alors quel est l'intérêt, pourquoi les produits sont plus qualitatifs quand ils sont en local et en bio ? Peut-être qu'on s'imagine bien, mais est-ce qu'il y a une raison spécifique ?
Alors, l'intérêt de l'agriculture biologique est plus vaste que... Enfin, voilà, c'est pas juste une étiquette sur des produits. Il y a vraiment un intérêt pour les territoires parce que en étant en agriculture biologique, on limite l'utilisation d'intrants polluants et du coup, on préserve aussi la qualité de l'eau, la biodiversité sur le territoire. Et c'est aussi intéressant de cuisiner bio dans les cantines parce que ça permet d'introduire de nouveaux produits et... Et ce que nous, on dit beaucoup, c'est que l'intérêt, c'est vraiment que ce soit bio et local pour favoriser l'agriculture sur le territoire.
Et il y a aussi un petit intérêt dans l'agriculture bio de protéger aussi les territoires. Peut-être Hélène, toi qui es bio 63, tu peux nous en dire un peu plus sur peut-être les avantages de l'agriculture bio sur le local.
Oui, alors c'est un peu ce que j'ai commencé à dire, mais effectivement, quand on est en agriculture bio, les agriculteurs qui font ce choix utilisent moins d'intrants, et notamment des intrants chimiques de synthèse, donc pas de pesticides chimiques de synthèse, pas d'engrais chimiques non plus qui sont épandus sur les terres. On utilise du fumier pour fertiliser les cultures. Et les agriculteurs en élevage nourrissent aussi leurs animaux avec des aliments bio, donc qui ont été produits en bio. Et c'est aussi du coup toute la chaîne qui est valorisée.
Et peut-être même bientôt, les déchets humains seront utilisés comme ressources. Si vous avez bien suivi la table ronde de ce matin, que vous pouvez réécouter sur radiosuper.org. Et il y a aussi le respect de cette loi, on en a parlé, on a entendu, enfin, je l'ai dit un peu tout à l'heure, la loi Egalim. Qu'est-ce qu'elle nous veut, cette loi Egalim ? Hélène ?
La loi Egalim, elle impose... alors, il y a plusieurs volets dans la loi Egalim, mais celle qui concerne la restauration collective, elle, comme disait Marie tout à l'heure, elle demande de faire un diagnostic de gaspillage alimentaire pour pouvoir le limiter au maximum. Et elle encourage aussi à s'approvisionner en produits de qualité. Et dans ce qu'on appelle de qualité, donc il y a 50% de produits durables qui doivent être dans les produits qui sont servis à la cantine. Et dans ces produits durables, il y a 20% de produits bio obligatoires depuis la mise en place de cette loi. Et les produits durables, c'est des produits qui ont été définis en fonction de différents labels, et notamment les signes officiels de qualité, comme AOP, AOC, IGP, label rouge. Donc c'est des labels qui justifient des cahiers des charges, enfin qui montrent qu'il y a un cahier des charges qui est respecté pour la production de ces produits.
Super, désolé, j'ai pensé une seconde au festival à Saint-Amand-Roche-Savine, label rouge, mais qui n'a pas grand-chose à voir. Alors maintenant, on sait ce que c'est ce projet, on a un peu les grandes directions. Et alors, maintenant, on peut dire qui est-ce qu'on met autour d'une table pour échanger, faire fructifier ce projet d'alimentation à l'échelle intercommunale. Alors, qui sont les acteurs et les actrices, et il y en a beaucoup d'actrices aujourd'hui autour de cette table, nécessaires de réunir pour arriver à ces objectifs de lutte contre le gaspillage, économie, développement de l'agriculture locale. Alors, on a la COCOM, donc... Marie Chazelle et Marie Labouré. On a aussi des associations, Anaïg par exemple, sur les pas de Gaspard. Peut-être tu peux nous dire un peu ce que tu as fait dans ce programme. Mm-hmm.
Donc l'association Sur les pas de Gaspard, c'est un réseau d'acteurs, d'éducateurs à l'environnement et aussi d'artisans, de producteurs. Donc on a répondu à la proposition d'ALF, nous plutôt pour sensibiliser les convives à cette loi Egalim. Alors se sont présentés essentiellement des écoles, des centres de loisirs. Et l'idée c'était vraiment de transmettre pourquoi c'est important de respecter cette loi, qu'est-ce que ça peut changer dans leur vie demain. Et voilà, donc nous, notre approche, donc je dis nous parce qu'on est une équipe, on était 8 animateurs sur une année. Le projet se poursuit, donc là, on poursuit. Et pendant un an, nous avons surtout donc accompagné les écoles, les centres de loisirs, donc beaucoup d'enfants. Et nous, notre démarche, c'est vraiment de les mettre en contact avec le réel, de se dire que l'alimentation, d'où ça vient, donc d'aller rencontrer les producteurs, d'aller visiter des fermes. Ça passe aussi beaucoup par les sens. On avait beaucoup d'enfants assez jeunes, donc visiter les fermes, le lien avec l'animal, comprendre, rencontrer vraiment ces paysans, comprendre comment ils travaillent, et après les questions viennent. Et des actions aussi à Amber, on a un marché du jeudi matin assez incroyable, très riche, qui fourmille. Et donc c'est aussi un lieu pédagogique, un lieu où les enfants sont allés à la rencontre des producteurs, n'ont pas hésité aussi à se mettre en place pour poser des questions, pour s'intéresser vraiment à ce que ces producteurs fabriquent.
Et sur le volet pédagogique, il y a aussi Hélène, donc sur la partie animation avec Bio 63. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, de ton côté ?
Oui, alors nous, ce qu'on fait, c'est plutôt un accompagnement auprès des cuisiniers et des cuisinières. On a travaillé avec chacun d'entre eux, dans les établissements qui sont engagés dans le projet, pour faire un peu un état des lieux de eux, comment ils fonctionnent aujourd'hui, mettre en valeur aussi ce qui est déjà fait et ce qui est bien fait dans de nombreuses cantines du territoire. Et après, on a aussi favorisé des temps d'échange et d'interconnaissance entre les cuisiniers et les cuisinières pour qu'ils puissent partager leurs expériences, leurs astuces. Et on a notamment organisé aussi des formations avec le collectif Les Pieds dans le Plat, qui ont beaucoup plu parce que c'était des ateliers culinaires où les cuisiniers de restauration collective partageaient ensemble la préparation d'un repas. Et on a échangé après sur justement les différentes saveurs, les différentes couleurs des plats pour aussi être en mesure de mieux les présenter aux enfants quand on fait des choses un peu différentes, notamment quand on cuisine des légumineuses qui sont peu utilisées aujourd'hui.
Et dont les enfants n'ont pas forcément l'habitude et ne sont pas forcément très friands d'après la légende. Oh, un petit plat de lentilles ou un coca, on ne sait pas. Donc on en a parlé, on l'a beaucoup entendu. Et quand même au centre de ce projet, il y a les écoles. Et aujourd'hui, il y a deux personnes qui représentent un peu des écoles, de restauration collective, parce qu'il n'y a pas que des écoles. Alors, peut-être pour parler du côté école, Catherine Chassot de Mara.
Oui.
Est-ce que tu peux nous raconter un peu du côté école, comment ça se passe?
Alors, à Mara, c'est une petite école, maternelle et primaire. Et moi, la formation m'a beaucoup intéressée, beaucoup questionnée. Je pense que savoir apprendre à manger aux enfants aujourd'hui, c'est aussi préserver l'avenir. Donc j'ai beaucoup appris avec les formations, les cuisiniers qu'on a rencontrés de l'association. Ça permet de remettre en question pas mal son travail, sa personne. Je trouve que c'est important. Et du coup, moi, les légumineuses, ils en mangent beaucoup hein, à l'école à Mara. Hein. Je cuisine énormément de légumineuses et ils trouvent ça bon. Gaston fera venir manger dans ma cantine.
Alors, quand tu veux.
Voilà, quand vous voulez. Je suis ouverte le lundi, mardi, jeudi, vendredi.
Ok, on fera peut-être un petit tour à vélo, un petit reportage en direct des écoles qui profitent de ce sujet. C'est quel le meilleur jour?
Il n'y a pas de meilleur jour. Tous les jours, c'est bon. J'ai même un témoignage d'une maman d'un ancien élève qui regrette beaucoup la cuisine de Cathy. Et ça, c'est des témoignages super nourrissants pour ma petite personne qui fait son petit travail dans sa petite cantine, dans sa petite région où je pense qu'il est important de préserver de la qualité pour nos enfants dans nos petites régions. C'est vraiment ce qu'on recherche. Souvent, j'ai le témoignage dans ma famille d'enfants qui mangent dans des cantines de villes ou de villages où les maires ne s'impliquent pas, les responsables ne s'impliquent pas dans l'événement des cantines. Et là, c'est vraiment désastreux. Les enfants, c'est pas bon, ne mangent rien. Les parents payent cher. C'est vraiment une catastrophe ce qui se passe autour de nous. On a beaucoup, beaucoup de chance sur notre territoire de pouvoir avoir un accompagnement riche et de pouvoir avoir des personnes qui feront de belles choses. Et moi, je suis très fière de mon travail, de ce que j'accomplis avec les enfants pour préserver l'avenir et nos territoires.
Bon, bah voilà, je crois que la messe est dite. On va pouvoir arrêter cette émission dès maintenant. Très beau témoignage, merci beaucoup. Donc on parle beaucoup de... Merci beaucoup, Catherine, du coup, cuisinière à Mara. Apparemment, est-ce que tu étais un peu sensibilisée à ces questions-là avant le début du projet? Ou est-ce que c'est le projet qui a bien permis
oui,
aussi
de... je pense que oui, sans trop le savoir, je pense que oui, parce que déjà je luttais contre le gaspillage. Déjà c'est quelque chose qu'humainement je ne comprends pas. Et vraiment l'ouverture s'est prolongée avec les formations, les rencontres avec les gens formidables qu'on a vus dans plusieurs formations, des cuisiniers. Enfin, moi, je pense que c'est intéressant et toujours profiteur que d'être ouvert dans la vie et pas du tout fermé. Et je pense que c'est ça qui enrichit une vie, progresser, s'informer.
Voilà, comme tu disais juste avant, c'est très nourrissant comme projet. C'est le cas de le dire. Donc, on est vraiment sur une histoire de rencontre, mais avant d'aller vers d'autres cuisines collectives, est-ce qu'on peut-être on peut faire un état des lieux de comment c'est maintenant, comment en restauration collective on se fournit en général actuellement? Hélène?
Oui, alors en général, il y a quand même du travail qui est fait. Hein. Je pense que la qualité globale de la restauration collective est en voie d'amélioration. Il y a un peu un mythe que c'est jamais bon ce qu'on mange à la cantine, mais je pense que c'est vraiment en train de changer. Sur le territoire, c'est beaucoup des petites cantines. C'est aussi ce qui fait la particularité du territoire d'Ambert-Livradois-Forez, qui ont il y en a pour les plus petites qui ont 12 couverts à préparer par jour, et pour les plus grosses, mais c'est le centre hospitalier, 1000 couverts. Mais voilà, en moyenne, on est plus autour de 50 couverts, donc ça reste des petits établissements. Et ce qu'on a pu constater aussi dans le cadre du projet, c'est qu'il y a déjà des travaux, qu'il y a déjà des cuisiniers qui travaillent en direct avec des producteurs et avec une plateforme qui s'appelle Auvergne Biodistribution et qui permet aux cantiniers et cantinières de s'approvisionner en bio local sur des produits auvergnats. Donc voilà.
On en reparlera, je crois, un peu plus tard dans les notes. Il me semble que c'est bien cité. Et pour continuer peut-être sur Condat les Montboissiers, Sarah Boulet, donc élue à la commune, on a cité école, on a entendu hôpital. Quel autre type de restauration collective, d'établissement profite de ce projet, peut-être sur Condat ou alors, peut-être du côté de la COCOM, vous pourrez compléter cette question?
Mais nous, on fait partie des toutes petites écoles. On a une cantine qui fait entre une trentaine de couverts par jour. Et c'est vrai qu'on est... pour moi, c'est le début de la maille, en fait. C'est-à-dire que, comme disait ma collègue tout à l'heure, par rapport aux grandes cantines, c'est presque des fois plus simple pour nous approvisionner en local, parce qu'on a des rapports directs, en fait, aux producteurs, ce que, à mon avis, les cantines urbaines ont plus de difficultés à mettre en place. Mais les enjeux sont les mêmes, exactement les mêmes, que ce soit des petites ou des grandes cantines. Après, je pense qu'on a plus de facilité de mise en œuvre de ce type de projet-là. Après, nous, sur l'exemple de Condat, honnêtement, on continue d'avoir une très belle évolution sur ce projet-là. La cantinière a été sensibilisée. Tu parlais d'ouverture, c'est exactement ça, en fait. Remettre en cause ses pratiques, essayer d'autres choses, pouvoir bénéficier des formations proposées par Bio63. Toutes ces choses-là font que on est passé de 4% de bio à plus de 37% dans les 50% de durable. Donc c'est une super belle évolution et... Eh bien, on continue, voilà. Et puis, en tant qu'élu, c'est important que nous puissions porter ce type de projet-là à notre échelle, en fait. Voilà.
Et ça m'a l'air plutôt pas mal. C'est quoi la moyenne nationale du bio? Est-ce qu'on a des idées de pourcentage de bio dans les écoles et cantines?
Oui, alors aujourd'hui, c'est encore, on n'a pas atteint au niveau national les objectifs de la loi Egalim. On est plus autour de 7% de produits bio. Donc voilà, il faut continuer les efforts. Et sur le territoire, on a plusieurs cantines qui travaillent historiquement avec la plateforme Auvergne Biodistribution et qui ont déjà 30% de produits bio. Il y en a d'autres où il n'y en a pas du tout, mais du coup, on continue à travailler avec elles pour que ça progresse.
Et d'ailleurs, comme on est dans les chiffres et dans les types d'établissements, combien d'établissements et quels établissements sur tout le territoire profitent de ce projet Mangeons bien, jetons moins?
Sur le territoire, il y a 70 établissements de restauration collective, ce qui représente à peu près 1,5 million de repas servis par an. Et nous, là, dans le programme, du coup, il y a une trentaine d'établissements qui sont accompagnés. Donc, c'est des écoles, des maisons de retraite et le centre hospitalier. Et les ALSH, donc, accueil de loisirs sans hébergement de la collectivité.
Alors, on est autour de 40% peut-être des...
Et il y a le lycée aussi.
Alors on est autour de donc 40% si je fais un calcul vite fait d'établissements suivis, mais ça a pas commencé depuis si longtemps ce projet.
Le projet a 2 ans. Alors nous on a fait le choix d'accompagner une trentaine d'établissements parce qu'historiquement depuis 2014 on accompagne il y a d'autres établissements qui ont été accompagnés par le Valtom avec les établissements témoins et d'autres programmes qui avaient été financés par la DRAF.
Et pour illustrer un peu ce projet, on peut écouter un clip qui a été réalisé et qui est accessible. Donc on va pouvoir écouter la bande-son. On ne pourra pas regarder la vidéo.
Le projet À Table est à destination des établissements de restauration collective, ainsi qu'à destination des producteurs agricoles et des convives, qu'ils soient adultes ou enfants. Et le premier volet d'action concerne les cuisiniers, puisqu'ils sont accompagnés individuellement par l'association Bio63, ainsi qu'on propose des formations collectives et des temps d'échange entre pairs.
Les objectifs du projet sont multiples. D'abord, accompagner les établissements dans leur mise en conformité par rapport aux lois, proposer aux convives des produits de qualité, de proximité et de saison dans leurs assiettes, mais aussi, du coup, lutter contre le gaspillage alimentaire, réduire les déchets et mettre en place le compostage. L'idée est aussi de sensibiliser, du coup, ces convives à une alimentation plus saine et plus durable, et surtout, accompagner le monde agricole pour pouvoir produire pour la restauration collective.
Les leviers qu'on peut actionner, ce sont d'abord la lutte contre le gaspillage alimentaire et l'introduction d'un repas végétarien. En effet, ces deux actions peuvent permettre de faire des économies. Ces mêmes économies peuvent ensuite être réinjectées dans l'achat de produits locaux et de qualité, viande ou autre. Nous avons tous les ingrédients sur notre territoire pour tendre vers une restauration collective exemplaire.
Il y a un œil rond, véritablement un œil. Et sans doute comme moi êtes-vous frappé par deux de ces yeux à l'expression indéfinissable, mais qui me semble résolument provocatrice. Je parle de l'œil nommé Amber.
Radio Super, la première radio d'Amber. Et voilà, moment émotion avec l'écoute de ce clip et des différents témoignages. Vous êtes toujours sur Radio Super à Amber et Radio Campus Clermont-Ferrand. On parle aujourd'hui du projet Mangeons bien, jetons moins. J'ai beaucoup de perdus qui me scrutent à chaque fois que je sors le nom du projet. On parlait de l'historique juste avant le clip de ce projet et des rencontres qui ont eu lieu. Comment c'est financé tout ça? Comment c'est mis en place peut-être du côté Comcom?
Alors, eh bien, effectivement, on a le soutien de plusieurs partenaires, de l'État dans le cadre du plan de relance, de fonds leaders à travers le parc, de l'ARS, et puis on a le soutien aussi de partenaires comme le département à travers la plateforme agri-locale, et puis l'Académie aussi à travers nos actions dans les écoles.
Ok, donc ça, c'est pour la partie financement. Comment ça a été reçu au début de la part des différents acteurs impliqués? Est-ce qu'il y a eu un enthousiasme général ou est-ce qu'il a fallu quand même un peu de pédagogie?
Alors, évidemment, comme tout nouveau projet, effectivement, il faut un temps un peu d'adaptation et puis de compréhension. Donc, effectivement, on a essayé de mobiliser de façon assez active tous nos partenaires. Donc voilà, au sein des établissements de cantine, ça passe par la mobilisation des élus, puis après des équipes de cuisine, des gestionnaires quand il y en a, côté EHPAD pareil. Voilà, pour le volet après plus pédagogique, on a mobilisé les écoles, les centres de loisirs. Et voilà, petit à petit, voilà, les choses se sont mises en place. Et vraiment, le plus de ce projet, c'est qu'on veut faire travailler ensemble, effectivement, c'est les trois publics que sont les agriculteurs, les cuisiniers et les élus, et les enfants, et les convives.
Donc, côté pédagogique, les enfants, les parents aussi d'élèves,
oui.
Qu'il faut convaincre.
Oui, tout à fait. On a travaillé avec Anaïg et les Pâtes Gaspard au public, donc vraiment qui mangent dans les cantines. Mais on a travaillé aussi un petit flyer, notamment un petit dépliant que les enfants ont ramené à la maison. Et on sait que voilà, il y a forcément discussion autour de ce petit document et des animations qu'ils ont pu voir à l'école.
Hélène ?
Il y a aussi certaines communes qui ont mis en place des commissions restauration, par exemple à Brousse, pour qu'il y ait des parents qui s'engagent et qui puissent suivre aussi l'évolution dans les cantines. Donc c'est des espaces qui sont intéressants pour témoigner sur ce qui est fait dans la cantine et qui permet d'échanger avec les parents sur, voilà, qui ont des questions parfois sur des changements de pratiques. Et ça permet d'être en direct avec eux pour répondre à leurs questions.
Alors le projet Brousse, on en a entendu parler en tout cas côté restauration collective dans le livre à doigts. C'est un peu un exemple aussi de ce qui se fait dans le coin, de la réussite de ce projet. Est-ce que c'était quelque chose qui était déjà en cours avant?
Alors c'est des choses qui ont été portées par les trois communes concernées, donc Saint-Jean-des-Aulières, Brousse et Sugère, et c'était déjà en place avant le projet. Je pense que le projet a permis de le mettre en valeur et de continuer à progresser sur les engagements qu'ils ont pris. Mais c'est intéressant de voir ce regroupement de cuisine, enfin de communes, qui, pour proposer une offre de cuisine unique pour les trois écoles. Et ça a permis effectivement que les cuisinières puissent s'approvisionner en produits très locaux, à 30 km autour de Brousse, et majoritairement en bio.
Majoritairement bio, c'est-à-dire plus de 50% de bio?
Oui, tout à fait.
Beaucoup plus, Catherine montre. C'est des chiffres de débutants, 50%. On parlait d'une gestion un peu collective. Comment ça se passe, peut-être Catherine, ou une description de comment ça se passe, comment les cuisinières, les gestionnaires passent leurs commandes? On a l'impression que c'est les rencontres surtout. Je crois pas qu'on ait parlé encore de l'annuaire. J'ai l'impression que c'est des rencontres qui permettent aux gens de faire des contacts avec les producteurs, avec les agriculteurs. Pour passer les commandes, parce que c'est ce qui fait défaut peut-être dans les cuisines, peut-être le temps, peut-être l'habitude au niveau de la gestion de l'approvisionnement. Qu'est-ce que...
Oui.
C'est une bonne question.
Moi, je travaille dans une petite commune, une petite cantine, donc je fais tout en un. Je fais la gestion, la préparation, l'accompagnement aux enfants. Et il faut être très, très, très organisé. Parce qu'on a le même temps pour travailler que si on faisait un seul poste, mais en fait on en a plus. Donc c'est difficile des fois de tout lier, on galope pas mal, et on essaye d'avoir quand même de bons résultats. Et pour commander, moi personnellement je fais mes menus, donc je prépare mes menus sur 4 semaines, et je fais mes commandes à peu près tous les 15 jours, ce qui me permet d'avoir des produits très réguliers, très frais. C'est très important de cuisiner de bons produits frais, de proposer aux enfants des fruits, des légumes frais quotidiennement. Parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais ce qui est très important, c'est l'enfant. S'il faut qu'il reçoive bien la nourriture, bien lui expliquer ce qui se passe, pourquoi le repas végétarien est venu s'imposer de lui-même dans les cantines. Préparer une nouvelle alimentation, c'est primordial. Et préparer nos enfants, c'est préparer leur avenir. Et je pense que ça, c'est très important.
Super, merci Catherine. Oui, Sarah.
Je pense aussi à quelque chose, Catherine, par rapport à ce que tu dis. On a eu la même problématique, c'est-à-dire sur la gestion des stocks à flux tendu. On n'a pas beaucoup d'espace de stockage. Je ne sais pas comment est ta cuisine, mais...
Pareil.
Voilà, à Conda, on a deux frigos. Enfin, on n'a pas beaucoup de... Donc, on est obligé de vraiment faire une gestion presque quotidienne des stocks, ce qui permet, du coup, de travailler en frais. Nous, on se fournit à l'épicerie du village, donc pour qui sert de plateforme un petit peu. Après, il y a d'autres producteurs qui sont en bio et qui sont à côté de Conda, qui nous font des livraisons de viande, par exemple, voilà, ou autre. Mais c'est vrai que c'est des problématiques qu'on a, je pense, spécifiquement en milieu rural. On n'a pas de chambre froide, on n'a pas de gros espaces de stockage. Donc le fait de travailler à flux tendu nous permet de travailler et de consommer plus frais. Enfin, c'est mon point de vue qui n'engage que moi, mais voilà.
Non, c'est tout à fait un engagement. Et du coup, du frais, excusez-moi, mais la qualité.
Et alors, ça nécessite beaucoup d'organisation. Et on avait un... tu voulais réagir
C'est une anecdote pour Mara, peut-être. Une anecdote à Mara aussi. En fait, le fait de faire parler de ce projet aux parents, à la commune, on s'est rendu compte qu'en fait, à Mara, on avait un verger communal et que ces pommes étaient gaspillées parce qu'en fait, elles n'étaient souvent pas ramassées. Et donc, avec des parents d'élèves et avec Catherine, et ben, du coup, il y a plusieurs parents d'élèves qui se sont mobilisés pour aller ramasser ces pommes. Bon, pas beaucoup. Allez. 3.
Pour l'instant. 2,5.
C'est assez pour dire. N'empêche que ça peut être une action qui peut se relancer. Et voilà. Et donc, du coup, c'est vraiment les pommes qui sont dans le verger dans lequel les enfants vont jouer. Et il y a vraiment cette notion aussi de gaspillage alimentaire. Voilà, c'était une petite parenthèse, mais ça peut se faire.
Donc, ça nécessite de l'organisation, de la prévision aussi, parce qu'il faut tomber au bon moment pour les pommes. On parlait en off à la préparation de cette émission de Sandra, cuisinière à Eglisolles, il me semble, qui a organisé sa collecte et son approvisionnement d'une façon assez particulière. Est-ce qu'on pourrait en reparler ?
Oui, alors du coup, Sandra, qui est cuisinière à Eglisolles, c'est positionné en fait sur les réservations de vélos cargo de la communauté de communes. Et donc, on a réservé un pour pouvoir aller chercher ses courses donc d'Eglisolles à Vivrolles. Donc, elle a une demi-heure de vélo pour aller chercher ses courses à Vivrolles, à la petite épicerie de Vivrolles. Et elle rentre du coup avec son vélo cargo pour aller faire les préparations pour le repas de midi. Voilà. Et elle achète tout à l'épicerie locale, donc à l'épicerie de Vivrolles, qui se charge d'acheter d'acheter les produits locaux que Sandra souhaite acheter aux producteurs du coin.
Donc elle passe la commande auprès de l'épicerie locale, qui passe la commande auprès des producteurs, et ça permet aussi de réunir tout ce qui est facture, compta, qui est aussi à la charge des agents des écoles.
Oui, donc c'est là où on voit qu'il faut quand même de la volonté. Hein. On sent qu'il y a une grosse implication quand même quand voilà, les petites écoles, ça demande effectivement une organisation, une logistique. Et on voit bien que voilà, on essaye de tout faire pour améliorer tout ça, mais effectivement au quotidien, c'est de l'engagement et de la motivation qui sont nécessaires.
Alors j'en profite pour faire une double auto-promo, parce que Sandra, les ateliers de remise en selle de la COCOM, c'est moi qui ai eu la chance de l'animer pour Sandra. Pour la location du vélo électrique avec les locaux côtiers. Et aussi, Sandra est dans la playlist de Radio Super avec son groupe Tres Figueras, il me semble, Tres Riberos, je ne sais même plus. Revenons-en à nos moutons. Peut-être que je vais faire un peu de discrimination positive. On pourra en tout cas me dire. Est-ce que cette nécessité d'être très organisée fait que le rôle incombe souvent aux femmes de faire ce travail ? Parce qu'on est autour de la table, il y a beaucoup
assurément. Assurément, je me répète, assurément. Seules les femmes sont capables d'autant de production.
Merci Catherine, cuisinière très organisée de Mara. Je ne sais plus où on était sur ça.
Ça y est, je me perds. Non, mais je laisse un petit peu de place aux hommes quand même, hein, de temps en temps. C'est-à-dire... Attendez, je réfléchis, combien j'ai vu d'hommes travailler avec moi. Non, toujours pas. C'est compliqué.
Parlons-en, il doit y avoir des exemples, non ? Peut-être un peu dans les...
Cuisine, c'est souvent des hommes, là, quand même, on doit le dire, pour diriger des équipes.
Mais ici, des chefs pour commander, mais pas pour travailler.
Voilà, on est sur Radio Super, on peut en profiter pour faire passer aussi un message.
Un gros message. Je ne comprends pas. Que se passe-t-il ? Pourquoi ses yeux sont fermés, ses oreilles fermées ? Je ne comprends pas. Mon pauvre Gaston, que alors. Des femmes à ta table. Fallait s'y attendre.
Oui, oui, c'était préparé, hein. J'en étais bien conscient. Parlons-en de Mara d'ailleurs, qui est très bien organisée,
oui,
qui m'a été présentée aussi comme un des bons exemples.
Très bon exemple.
Parce qu'il y a aussi donc Catherine qui est avec nous, qui est très impliquée dans cette émission aussi.
Toujours, je m'implique ou je ne viens pas.
Il y a aussi des relations avec Auvergne Bio Distribution, la plateforme de distribution de bio, depuis des années, non ?
Oui, enfin, oui. C'est... Depuis quelques années, j'ai de très bonnes relations. C'est des gens sérieux. Je commence à travailler un peu plus aussi en fruits et légumes avec eux. Le fait d'avoir été fourni en informatique par ma commune me permet de recevoir des mercuriels en direct chaque semaine. Et là, je peux voir des productions auvergnates. Donc, je prends des fruits, des légumes à des prix compétitifs. Et j'en profite. Ma commune, ma campagne, j'en profite.
Ok, donc super suivi. À quel point c'est important d'avoir les élus derrière. Est-ce qu'il y a des villages où les élus peuvent un peu mettre des bâtons dans les roues de la volonté des prestataires ou des cuisiniers et cuisinières? Est-ce que c'est arrivé? Est-ce que Marie-Laure?
Alors des bâtons dans les roues, je ne sais pas, mais effectivement, il y a forcément des élus plus ou moins sensibles à ces questions. Et on sent qu'effectivement, pour que ça marche, il faut un bon duo, quoi. Il faut la commune et les élus qui donnent le pouvoir à la cantinière, au cantinier, de travailler dans de bonnes conditions et d'aller au bout de ses convictions.
Après, pour l'exemple de Marat, on peut aussi dire que... ça a permis de mettre en valeur en fait le travail que faisait déjà Cathy. C'est-à-dire qu'en fait les élus font plein de choses et donc du coup ils avaient en l'occurrence là vraiment délégué le travail de cantine à 100% à Cathy. C'est elle qui fait tout du début à la fin et en fait les élus ne savaient pas forcément.
Est-ce qu'ils avaient le choix?
Mais ils étaient contents. Les parents sont contents, les tarifs sont respectés, donc en fait ça se passait très bien. Donc en fait du coup ce projet il a aussi pu permettre de mettre en valeur le travail qui était de valoriser en fait un travail qui était fait. Donc voilà, même si au départ effectivement peut-être que ce projet il a fallu le faire comprendre en fait à l'ensemble du conseil municipal. Mais
Hélène.
Et peut-être une particularité aussi de ce territoire, c'est qu'il y a dans certains villages, il y a notamment à Fournols, il y a des élus qui c'est eux qui se chargent de l'élaboration des menus. Une élue qui est très motivée parce qu'elle ne pouvait pas s'appuyer sur... Enfin, il y a eu des soucis avec les cuisiniers. Et du coup, c'est elle qui a pris en main l'élaboration des menus et la prise des commandes. Donc, il y a des élus qui sont aussi très impliqués dans la vie de la cantine.
Marie-Laure.
Et pour revenir un peu sur un bilan un peu des pratiques, peut-être qu'Hélène, tu peux nous dire quelques mots, parce qu'on est effectivement on a une bonne image maintenant de notre restauration scolaire. Et je sais que tu as des chiffres.
Alors ce que je disais tout à l'heure, donc il y a entre les cuisines, donc c'est entre 12 et 950 voire 1000 repas par jour, avec en moyenne 50 repas par jour. La majorité sont en gestion directe, donc c'est vraiment les communes qui préparent les repas, qui ont toute cette gestion. Et il y en a très peu qui font appel à un prestataire. Et quand c'est des prestataires, c'est pas des sociétés de restauration collective, mais ça peut être le restaurant de la commune. Par exemple à Saint-Alyre-d'Arlan, ou un traiteur. Il y a aussi le petit plat mobile qui prépare des repas pour Olliergues et la Chapelle Agnon. Donc ils mobilisent aussi des acteurs du territoire. Ce qu'on peut dire aussi, c'est donc il y a souvent dans les restaurants, c'est une seule personne qui est en charge, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de la préparation des repas, de la gestion des commandes, de tout le rangement et de l'animation auprès des enfants ensuite. Le coût matière des repas, le budget qui est alloué à l'achat de matières premières pour la préparation des repas est assez élevé par rapport aux moyennes au niveau national. On est autour de 3 euros par repas.
Voilà, comment ça se fait qu'ici ce soit plus cher, que ce soit peut-être plus accepté aussi?
J'ai l'impression qu'il y a des communes qui ont aussi envie qu'il y ait un budget, mais alors vous me direz si je me trompe, les élus qui sont autour de la table, mais qui ont envie de maintenir un budget assez important sur la préparation des repas.
C'est aussi que c'est des petites structures. Ouais. Donc comme c'est des petites structures, on ne peut pas faire à manger pour 30 si avec 2 euros par enfant, ça devient difficile. Quand on a une grande structure, on peut faire des économies, quoi.
Oui, Sarah, élue à Condat et Montboissier.
Oui, du coup, pour rejoindre ce que tu dis, c'est une histoire de volume, en fait. Nous, sur les prix, on est en coût matière à 2,80 €. On a fait le choix avec le conseil municipal de ne pas augmenter le prix des repas et de prendre le surplus, s'il y en a, voilà, eu égard à l'inflation, enfin, la crise qu'on est en train de vivre, à la charge de la commune, de ne pas l'imputer, en fait, sur le budget des parents. Et ça me semble important. Et en effet, les grosses cuisines qui achètent plus de volume, on est pris plus compétitif que les toutes petites. C'est une logique mathématique.
Oui, on n'en a pas parlé, mais dans le cadre actuel, dans le contexte actuel d'inflation, d'augmentation générale des prix, est-ce que le fait que ce soit aussi en plus local permet d'éviter une inflation plus importante ou non? Non, on fait des noms de la tête, malheureusement.
Bah, c'est pas évident à dire tout de suite, mais je pense qu'il y a quand même un intérêt à travailler en local, parce qu'il n'y a pas tous ces cours internationaux qui entrent en jeu. Et donc, dans tous les cas, il y a une meilleure maîtrise des coûts quand on travaille avec les producteurs. Et dans le cadre du projet, on avait aussi organisé la visite de l'abattoir à Ambert pour que les éleveurs et les cuisiniers puissent échanger autour de cet outil du territoire. Et on s'est rendu compte, entre les échanges entre les cuisiniers et les éleveurs, que finalement, les prix proposés par les éleveurs qui sont du territoire et qui sont souvent aussi en production de qualité, soit bio, soit label rouge, étaient quasi équivalents à ce que les cuisiniers achetaient auprès des grossistes. Donc c'était intéressant de voir cette discussion se mettre en place entre les éleveurs et les cuisiniers, et de voir que finalement, voilà, même si on pensait que c'était beaucoup plus cher auprès des producteurs locaux, ce n'était pas toujours le cas.
Donc on vient de casser le mythe urbain ou mythe rural du local plus cher, du local et bio plus cher que de la grande industrie. Est-ce que il y a eu des modifications ou alors dans la vision des choses, parce que en général, alors si j'essaie de m'exprimer, en général l'alimentation devient le premier budget qui est cassé, coupé, réduit. Dans un contexte d'inflation, est-ce que dans certains endroits, dans certaines expériences ou endroits où c'est expérimenté, le projet, les gens essayent ou ont presque envie de faire un pas en arrière, ou tout le monde est là, non mais c'est super, on continue.
Il y a eu une crainte au début, justement, que... Enfin, moi, j'ai même eu une inquiétude en me disant, bah, vu l'inflation, est-ce qu'on va réussir à continuer à motiver les cuisiniers à s'approvisionner et à changer un peu les approvisionnements? Mais là, ce qui ressort quand même du suivi, c'est que les établissements, et notamment dans les maisons de retraite, ont maintenu un budget, ont réaugmenté le budget alimentaire pour pouvoir suivre l'inflation et les produits alimentaires. Il n'y a pas eu une baisse et du coup, la recherche de produits de encore moins bonne qualité. Il y a vraiment eu cette volonté de maintenir un budget suffisant pour pouvoir suivre l'inflation. Mais il y a quand même des inquiétudes, parce que si ça continue d'augmenter, on ne pourra pas augmenter en continu le budget alimentaire.
Ouais, il y a d'autres budgets qui augmentent beaucoup plus à côté. Catherine, vous hochez un peu de la tête. Est-ce que tu veux compléter la réponse d'Hélène ?
Ben, moi, ce que je peux dire, c'est qu'on est obligé de réfléchir quand même nos menus différemment, d'adapter avec l'inflation des produits... Enfin, moi, personnellement, j'essaye d'équilibrer. Si beaucoup de légumineuses, les enfants aiment le pain, des tartinades, des choses comme ça. J'ai vraiment repensé toute l'alimentation que je leur propose. J'ai pas eu de leur part de réponse négative. Ils sont plutôt contents. La semaine dernière, ils ont goûté un mélange de riz blanc et de riz rouge. Bon, le riz rouge, il arrive pas de la Camargue, mais... C'est sympa aussi de pouvoir leur proposer une alimentation variée par la couleur, l'aspect. Et ça reste quand même des produits semi-complets, complets, d'Auvergne bio. Donc je pense que dans l'équilibre, on peut quand même faire des choses intéressantes. Et au niveau visuel et au niveau qualité de la nourriture. Ce qui est important, on sait aujourd'hui que bien manger, c'est préserver sa santé. Et c'est important pour nos enfants de préserver leur santé, leur équilibre global, psychique et moral. Et bien manger, c'est se sentir bien. Et ça, c'est important. Il faut que les enfants soient bien dans leur peau. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de malaise, beaucoup de tensions. Et je trouve qu'ils n'ont pas mérité ces tensions... plus que nous, d'ailleurs, mais elles existent. Donc, il faut essayer de rééquilibrer tout ça.
Et voilà, donc une belle assiette bien appétissante, c'est pas forcément une assiette avec une grosse côte de bœuf dedans, voilà. Plein de couleurs. Marie-Laure, peut-être tu voulais parler de l'assiette végétarienne.
Oui, tout à fait. Catherine nous envoie un petit peu un signal pour discuter de ce sujet-là. Effectivement, c'est... Ça a été la loi Egalim propose du coup d'introduire un menu végétarien, et effectivement dans notre territoire d'élevage, avec voilà la communauté de communes qui essaye de sauver l'abattoir, plein d'agriculteurs qui font de l'élevage autour, Voilà, c'est forcément un sujet qui est un peu discuté, mais nous, on a voulu prendre le parti de justement travailler avec un plat végétarien. Ça permet en fait de faire des économies, comme vous disiez tout à l'heure, Marie, et vraiment de réinjecter dans de la viande locale. Donc on est vraiment sur les deux tableaux et c'est bénéfique pour les deux.
Alors on entre, merci Marie-Laure de la Comcom, on entre dans les dernières 10 minutes pour parler de ce projet. Mangeons bien, jetons moins. Super. On va peut-être faire un état des lieux. Côté agriculteur, côté agriculture, qu'est-ce que ça a créé, la rencontre entre les différents agriculteurs, peut-être ? Est-ce que ça a facilité des choses ? Est-ce que ça a créé des dynamiques, des nouvelles dynamiques sur le territoire ?
Alors, on s'est rendu compte, en fait, que chacun, côté cuisinier et côté agriculteur, on avait, chacun avait un petit peu ses croyances, à savoir que, voilà, côté cuisinier, on se dit que on n'a pas de maraîcher, par exemple, sur le territoire d'Ambert, ou alors on produit pas assez. Et puis, côté agriculteur, on voyait que, voilà, on imaginait qu'il fallait des quantités incroyables et puis des produits standardisés pour pouvoir rentrer dans les cuisines. Et en fait, l'enjeu de ce projet, on est dans une démarche, hein, on commence juste, mais vraiment, c'est de faire dialoguer un peu ces deux parties et puis de faire des liens. Et on se rend compte que, voilà, un des plus du projet, c'est vraiment de mettre en lien ces deux publics. Et donc, on a notamment travaillé sur un outil tout simple, mais qui est un annuaire des fournisseurs de la restauration collective. Donc, avec une entrée agriculteur par production, quel agriculteur est basé où, quel peut produire et approvisionner des cantines sur quel produit. Et puis, côté cuisine, en fait, il y a tout un annuaire des cuisiniers, en fait. Donc, l'agriculteur peut aller piocher le nom du cuisinier de la commune d'à côté ou du collège. Et discuter. Et puis, côté cuisinier, de la même façon, pour trouver des produits. Donc ça, c'était un petit outil tout simple qu'on va continuer de mettre à jour régulièrement, mais qui, finalement, est un premier lien pour faire discuter les deux. Et puis, en début d'année, on a proposé aussi un temps d'échange, en fait, des rencontres professionnelles avec des agriculteurs qui sont venus proposer, tenir un petit stand de leur production, et puis des cuisiniers qui sont venus discuter.
Hélène ?
Et je voulais juste compléter, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des porteurs de projets qui sont candidats à l'installation, enfin qui ont envie de s'installer en agriculture sur le territoire. Et en participant aux réflexions, ils se sont dit aussi, ils ont pris en compte que la restauration collective pouvait être un débouché pour eux. Et du coup, voilà, il y a eu ce petit, un petit déclic auprès de futurs agriculteurs de se dire... moi, j'ai tout à penser pour mes débouchés et du coup, je vais m'intéresser à la restauration collective et voir comment je peux m'organiser dans ma production pour pouvoir fournir ce débouché. Et ça, c'est aussi un résultat qui est intéressant, je trouve, sur le territoire.
Voilà, big up à Mathilde et Romane qui auraient pu être là aujourd'hui, mais qui ont malheureusement beaucoup de courges à ramasser avant les premiers gels parce que oui, nous sommes dans un territoire de moyenne montagne et qui d'ailleurs veulent lancer une AMAP et s'intéressent aussi à rejoindre ce projet-là. Alors, où est-ce qu'on en est ? Il nous reste environ 8 minutes pour parler de ce projet « Mangeons bien, jetons moins », porté par la Comcom avec les autres partenaires Bio63 et sur les pas de Gaspard. Peut-être on va aller vers la suite. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc, ça fait un an et demi que ça existe. Que ça a commencé sur le territoire. Dans 6 mois, ce sera terminé. Qu'est-ce qui va se passer pour dans les 6 prochains mois ? On va tout finir. Et après, on arrête ?
Eh bien, effectivement, le projet, donc pour le côté subvention, en tout cas institutionnel, se termine au printemps prochain. Donc, on continue nos actions avec Bio63, avec Anaïg sur ce délai-là. Et puis, par contre, évidemment, on sait que c'est des sujets qui doivent être menés à long terme. C'est des changements de pratiques qui prennent du temps. Et donc, évidemment, on fera au mieux pour pouvoir continuer tout ça à travers notamment les rencontres agriculteurs-cuisiniers dont je vous parlais, des formations aussi à destination des cuisiniers. On sent qu'il y a vraiment une mobilisation et une attente de ce côté-là. Et donc, on continuera de façon certaine. Et la sensibilisation au mieux aussi. On va voir comment on peut un peu continuer les choses. Mais on sait que c'est un changement de pratique qui demande du temps. Donc.
Sur les pas de Gaspard, comment on envisage la fin et la suite, la poursuite de ce projet ?
Nous, la suite, effectivement, ça ouvre plein de pistes dans les écoles, puisqu'en fait, là, il y a quand même de nombreuses fermes qui ont été ouvertes aux écoles, des belles rencontres qui se sont faites. Je pense que les enseignants, du coup, nous redemandent régulièrement. Enfin, en fait, ce projet, il faisait suite aussi sur le volet sensibilisation à un projet qui s'appelle Mon voisin paysan et qui était mené sur le territoire depuis 4 ans avec le PNR, Livradois-Forez. Et donc, on voit qu'en tout cas, c'est un sujet qui intéresse énormément. Et oui, il y a plein de belles pistes. Là, la semaine prochaine, on poursuit encore avec une visite. Là, c'est un EHPAD, l'EHPAD de Quinya, qui va faire une visite dans une ferme, la ferme des Pradelles. Donc, voilà, la saison de l'automne, c'est encore possible.
Marie-Chiselle, peut-être sur le compostage.
Oui, juste tout à l'heure, on a parlé de la lutte contre le gaspillage alimentaire, donc un gros travail sur le gaspillage alimentaire. Mais ce qui est inévitable, du coup, les restes de préparation de repas ou le peu de gaspillage alimentaire qui reste, plus de 90% là, des établissements en restauration collective sont équipés en fait d'un système de gestion des biodéchets, donc principalement du compostage. Pour quelques établissements sur Amber, c'est de la collecte de biodéchets. Et je voulais faire un petit focus. En fait, aujourd'hui, on est à J-100 sur l'obligation des tri des biodéchets en fait, dans les ordures ménagères. Donc là, c'est l'obligation qui incombe à tout le monde, tous les habitants, tous les producteurs de biodéchets. Et donc aujourd'hui, c'est le J-100.
Et donc, c'est quoi la date butoir, J-100?
1er janvier à votre calendrier. Non, c'est 1er janvier 2024.
Ok, voilà. Super. Donc 1er janvier 2024, on veut plus une miette de pain dans la poubelle.
Et encore moins noire. Des épluchures.
Encore moins des épluchures.
Aujourd'hui.
Aujourd'hui, Catherine, la fin de ce projet et la suite.
Eh ben pour moi, c'est pas la fin. C'était le début d'une nouvelle aventure que je vais continuer. J'aurais une idée pour mes amis producteurs qui produisent. Beaucoup de légumes ou de fruits en ce moment, c'est une idée, mais je la jette en pâture. Ce qui serait bien, ce serait d'avoir une fabrique pour pouvoir faire des bocaux. À la maison, on fait des bocaux et les producteurs devraient pouvoir faire des bocaux, avoir les moyens de le faire, ou on devrait les aider à avoir le moyen de le faire. Et nous, on peut acheter ces bocaux. Les légumes vivront un peu plus et nous mangerons de bons légumes un peu plus longtemps.
Voilà, et ça couplé par exemple à une idée de traitement des bocaux, de lavage, de la consigne par exemple, plus tôt que de jeter. Parce que hier, nous par exemple, on a jeté le verre de notre coloc et il y en avait beaucoup. Et ça fait un peu mal au cœur à J-1 de parler de gestion des déchets. Il existe je crois, dans le département, une usine un lieu où ils font ça, vers Clermont. Qui notamment lave parce que c'est le plus compliqué. Comment ? Pour les bouteilles de bière et de jus de pomme surtout qui fait ça. Ça coûte un peu plus cher, mais ça permet de pas jeter ces bouteilles de jus de pomme. Et si vous avez trop de bouteilles de jus de pomme, vous pouvez toujours les amener au local de Radio Super parce que à Naïg sur les pas de Gaspard. Voilà, ça pourrait être compté comme don à une association d'une certaine manière. Côté pédagogique, maintenant peut-être pour la suite, qu'est-ce qui va se passer ensuite sur le territoire ? Hélène, qui a une vision d'ensemble un peu plus peut-être large sur d'autres territoires du Puy-de-Dôme ?
Oui, alors sur le Puy-de-Dôme, nous on espère pouvoir monter un grand projet de filière pain bio local à destination de la restauration collective. Donc on est en train d'essayer de monter ce projet avec les paysans meuniers boulangers du Puy-de-Dôme. Qui ont envie de fournir la restauration collective, mais qui ont besoin aussi d'organiser la logistique. Donc c'est un projet qu'on a, nous, à Bio63 en ce moment pour continuer, et dont la Comcom Amber Livradois-Forez est partenaire. Donc on espère que ça pourra se mener et aboutir.
En tout cas, ça a l'air d'intéresser Catherine derrière.
Eh bien oui, j'étais pas au courant. J'apprends des choses. J'ai bien fait de venir.
Tu as très bien fait de venir. On est très contents de t'avoir sur Radio Super. Peut-être pour finir ce tour de table des perspectives et de l'ouverture de ce qui va se passer pour la suite, côté Condal et Montboissier, Sarah.
Alors moi, c'était mon premier mandat en tant qu'élu. Il nous reste donc 3 ans. à l'équipe et je pense qu'on va continuer nos efforts pour arriver à aller au-delà des objectifs qui sont fixés par la loi Egalim. Et puis, comme disait tout à l'heure Anaïg, nous aussi, nous avons planté avec les enfants de la commune un verger communal. On a envie de développer aussi, alors en petite quantité, mais de l'auto-approvisionnement. Alors pas sur les arbres qu'on a plantés là, mais on investit en tout cas dans l'avenir pour permettre aux enfants d'avoir un jardin, un potager, un verger, toutes ces choses-là. Et leur transmettre très tôt le goût d'une alimentation durable et vertueuse dans ses pratiques. Voilà.
C'est un très beau, merci Sarah, c'était une très, très belle ouverture vers la suite. Est-ce qu'on a un dernier mot, une dernière ouverture sur ce qui va se passer plus tard? Donc là, on est bien nourri de vergers, de pins. Je crois que côté viande, il se passe des choses du côté de l'abattoir d'Ambert.
Alors oui, effectivement, il y a des travaux qui vont être de mise aux normes qui vont être entrepris dans les prochains mois, et puis on aimerait surtout que cet outil, il puisse servir à la restauration collective. Donc c'est il y a des freins, enfin il y a des choses un petit peu à lever, mais on pense que ça peut vraiment être un outil intéressant sur notre territoire et pour la restauration collective aussi. Et puis juste un petit dernier mot peut-être, avec Marie, on est assez mobilisés sur ce projet parce qu'on aime vraiment faire dialoguer un peu tous les publics ensemble. Et on sent que les gens ils sont attachés aussi, on crée des vrais moments d'échange et c'est plutôt un chouette projet.
Et voilà, c'est plutôt un très chouette projet avec un nom pas facile à dire.
À table, c'est facile.
À table, c'est vrai, à table. À table. Et d'ailleurs, nous, on va sortir de table. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à toutes d'avoir participé à cette émission. Donc, je vais refaire toute la liste. Marie, merci Marie-Laure Labouré. Merci Marie Chizel. Merci Anaïque Pinsec. Merci Sarah Boulet. Merci Hélène Cadieu pour Bio63. Merci Catherine Chassot, cuisinière de l'école de Marat. On se revoit bientôt, un lundi, mardi, jeudi ou vendredi, sur l'horaire de midi, avec des grands-enfants comme moi à table. Merci beaucoup aussi Agathe pour la technique. Et, on peut aussi remercier Ella qui nous a aidé à installer ce plateau. Étienne qui va peut-être nous aider à désinstaller ce plateau. Merci beaucoup à Fourmi qui a fait une installation assez incroyable autour de nous. Donc on est sonorisé à notre endroit par la Sono de Radio Super, mais Fourmi a dispersé des postes radio un peu tout autour du site. Donc on est en FM sur la fréquence de l'autoroute d'Ambert, le 107.7. Donc voilà, si vous partez et que vous êtes dans votre voiture, vous pouvez écouter Radio Super sur le 107.7. Je crois qu'ils ne nous en voudront pas. Merci aussi à Nico pour la retransmission sur Radio Campus Clermont-Ferrand. Et merci à tout le monde d'avoir organisé. Merci à Sarah, Audrey et Dorine d'avoir préparé cet bel événement Respire. Nous, on doit filer. Sarah vient peut-être nous dire « Ah, c'est l'heure de partir !» Voilà, merci à tous d'avoir écouté et on retrouve en podcast. Marie veut encore dire un truc.
On vous invite à venir sur le stand à table à l'intérieur de la Syrie, à côté du tourne-chatouille de Nicolas Savoy.
Oui, où on peut retrouver notamment la valorisation d'enfants qui ont participé au projet. Merci beaucoup à tous et à bientôt sur Radio Super. Changez tout, sauf de fréquence.
La colle super, l'émission collective de Radio Super.
Tous les jeudis de 19h à 20h.
Merci Agathe. Voilà, c'était à table. Mangeons bien, jetons moins. On a vu que vous cherchez des hommes. Eh bien écoutez, on va faire en sorte de vous en trouver. On va parler voiture électrique, si vous voulez bien, dans quelques instants. J'ai aussi trouvé un portefeuille d'une femme. Eh oui, les femmes oublient beaucoup leur portefeuille. Elle s'appelle... Eh bien écoutez, on dirait la mienne. Eh voilà, toujours en train de courir après ses affaires. Donc c'est Aurélie. Aurélie Mag, on a vos affaires, téléphone portable, carte bleue, etc. Si vous voulez, c'est Aurélie qui paye pour la tournée. Voilà, on va le mettre à l'accueil. On va le donner même à Sarah sur son téléphone. Si vous connaissez Aurélie Mag, eh ben écoutez, on a son téléphone, ses papiers, carte vitale, carte bleue. Je pense qu'elle doit être un peu en panique. Sarah, hop, le portefeuille d'Aurélie. Mike qui l'a oublié. On va parler donc voiture électrique. On remercie la radio Super et toutes les équipes. Vous étiez super bien aujourd'hui. Voilà, on va parler aussi. Allez,